physicien qui est mort maintenant, qui est né en fin de la fin du siècle dernier, enfin avant-dernier, 1894 ou quelque chose comme ça. Et cet abbé Lemaître, je ne sais pas pourquoi, on n'en parle jamais. Pourtant, il avait une idée géniale d'où a dérivé le Big Bang, mais le Big Bang, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Enfin, ça n'a pas d'écho. Alors que l'hypothèse de l'abbé Lemaître, pour moi, elle a un écho. Pour lui, Dieu est comme un œuf, était l'œuf cosmique et l'œuf cosmique primitif qui, pour s'exprimer, a éclaté. A éclaté sous la forme d'un plasma. Le plasma c'est pas le plasma sanguin, c'est un plasma physique qui est reconnu d'ailleurs depuis un certain nombre d'années. Il a sa définition, c'est-à-dire que c'est une soupe nucléaire. Et donc ça a donné naissance à un premier monde. Mais comment ce monde peut-il subsister et se régénérer? Alors, l'abbé Lemaître, aidé d'Einstein et de quelques autres physiciens, se sont dit, pour que le monde ait cette expansion, il faut que les noyaux, que le noyau primordial se régénère, soit capable de reformer quelque chose, de restructurer, que ce plasma puisse redonner quelque chose. Et effectivement, je passerai sur les lois, hein, j'explique ça un peu mieux dans ce livre-là. Les noyaux, effectivement, peuvent se régénérer et de nouveau se forme une sorte de noyau primitif, d'œuf primitif, lequel va éclater de nouveau, redonner du plasma, etc. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre, c'est-à-dire du noyau primitif, qu'on peut appeler le divin, enfin que j'appellerais le divin, comme le supposait d'abord l'abbé Lemaître, sans trop le dire, mais enfin, c'était implicite. On arrive à créer plusieurs mondes et à accepter l'idée d'un monde en expansion. Et merveille, ce que je n'avais pas compris chez les ésotériques qui parlaient de plusieurs mondes, on les retrouve là en physique moderne, en physique quantique. Donc, pour moi, j'étais satisfaite, la physique m'expliquait l'ésotérisme. Alors, il est évident que je vous fais un raccourci suprême de quelque chose de très complexe qui contient à la fois tout l'ésotérisme, toute la physique moderne et qui ne conviendra certainement pas aux astronomes. Mais c'est ma version. Et je la trouve cohérente et elle explique beaucoup de choses. Parce que lorsque le noyau primitif éclate, il envoie non seulement de l'énergie, mais aussi des informations. Et nous nous trouvons donc devant une explication du traitement. Peut-être des psychanalystes, mais je ne suis pas psychanalyste, dans tous les cas. Des sophrologues, des guérisseurs, des auriculothérapeutes qui pensent quelque chose avec la force pensée et qui l'envoient vers le malade, à la fois l'information et l'énergie, et qui obtiennent un travail et un résultat. Voilà ce que j'avais à peu près à vous dire. C'est un résumé extrême d'une dizaine d'ouvrages qui explique ça petit à petit, progressivement, avec les cas cliniques, etc. Et deux livres d'astrologie médicale, le troisième est en cours. Que vous dire encore? Eh bien, évidemment, c'est ma vision des choses, qu'elle essaie d'être cohérente, en tous les cas, que ça fonctionne. Et qu'est-ce qui m'a permis de faire cela? C'est peut-être d'être psy. Car alors que je me croyais très physique, très sportive, en réalité, en faisant les thèmes, en étudiant l'astrologie, je me suis aperçue que je jouissais d'un syndrome de Neptune. Car, ça c'est encore une définition, mais on irait trop loin. Neptune est, la position de Neptune dans un thème évoque le lointain, la distance, et nous met en communication avec le lointain. Et puis il y a une autre planète, Uranus, etc. Enfin, il y a toute une structure dans un thème qui permet à l'individu d'entrer en rapport avec l'invisible, avec ce que les autres n'entendent pas, avec ce que les autres ne voient pas. Alors, je vous dirais que ma première expérience de psy, je vais quand même vous la raconter, à titre anecdotique, on terminera là-dessus, date de mon enfance, parce que ma grand-mère était psy. Elle me disait le matin ce qui allait se passer dans la journée, c'est-à-dire qui était mort, qui allait venir déjeuner, qui allait venir lui dire bonjour, alors elle allait faire les courses en conséquence. Je vivais avec elle dans cette espèce de non-dit que je trouvais normal, et pourtant je n'en parlais à personne, ni à mon père, ni à ma mère. C'était quelque chose entre ma grand-mère et moi. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne me suis pas encore expliqué la chose, c'était caché. Je savais que c'était quelque chose de caché, de secret, qui ne devait pas être dit ailleurs. Et puis, ma première expérience date du jour où je suis allée à la faculté des sciences pour prendre les renseignements concernant l'inscription en médecine. La première expérience vraiment dur comme fer, celle-là. J'entre dans la faculté, je suis sur le pas de la porte, et j'entends une voix qui me dit « Voilà ton mari ». Je regarde dans la rue, personne, je regarde dans le hall, je ne vois personne. Je m'avance, et au fond, dans le noir, dans le sombre, car il faisait du soleil dehors, je vois un garçon, de dos, grand, d'un imperméable marron, je m'en souviendrai toujours. Je le regarde de profil en m'avançant, il avait un beau profil. Je dis, si celui-là, c'est pas mal. J'étais hélas, à ce moment-là, trop sensible au physique, à l'esthétique, j'étais l'artiste, avant d'être la psychologue ou la psychanalyste, que je ne sais pas encore. Et voilà. Alors, je le regarde, je l'examine, lui s'en va, moi aussi, et puis nous allons aux travaux pratiques après les inscriptions, un mois plus tard. Je vais chercher ma salle de travaux pratiques, j'avais le numéro 1203, je vois 1201, 1203, je dis, on a oublié le 1202, je dois être dans la salle suivante, et là 1204, etc. Alors je vais réclamer, on me dit, allez là où vous êtes inscrite. Oui, mais alors, il y a une erreur. Je ne vais pas avoir ma place à ma table. Allez à votre place. Et je cherche les places, ma place. Certaines qui n'avaient pas de 1203, puisqu'il y avait de 1201, 1202 qui normalement étaient l'un à côté de l'autre. Et il y avait sur la table 1201, 1203. Le 1202 est encore oublié. Les étudiants arrivent, se mettent l'un à côté de l'autre, Et je vois arriver le grand garçon, qui était le 1201, se mettre à côté du 103, c'est-à-dire moi. Nous étions binômes et nous devions disséquer la même grenouille. Et effectivement, il est devenu mon époux. C'était ma première expérience. Et puis, de temps en temps, cela se passe. Je ne demande jamais rien. Jamais. Je ne suis pas une voyante. Mais j'ai de temps en temps des informations comme ça qui me viennent. En général, ça touche à la santé. Et je ne sais pas pourquoi. Et j'accepte tout simplement les choses sans complications.